Bienvenue à ce nouveau cours d'Histoire mondiale. Aujourd'hui, tel que promis, un épisode thématique. Nous nous transportons au 16e siècle pour parler de nul autre que Ferdinand Magellan, qui est décédé le 27 avril 1521, mais pour parler aussi de l'incroyable aventure qui a mené son équipage à réaliser la toute première circumnavigation de l'histoire. Il faut dire qu'à l'origine, il cherchait un passage vers l'ouest pour atteindre les îles aux épices en Indonésie, à une époque où ces dernières valaient leur pesant d'or. Mais au cours d'un voyage qui a duré près de 3 ans pour une partie de son équipage, Ferdinand Magellan a découvert un détroit en Patagonie qui reliait les océans Atlantique et Pacifique et qui a assuré à un de ses navires, le Victoria, de réussir cette toute première circumnavigation. Prêt pour l'aventure? Autant commencer par nous intéresser au personnage de Magellan lui-même, parce que c'est pas si évident que ça. Il faut dire qu'avant son célèbre périple qui va le faire passer à l'histoire, en permettant en fait de faire comprendre qu'il y a une énorme distance entre l'Amérique du Sud et les Indes, à une époque où il existait un mythe tenace qui était que les deux territoires n'étaient qu'à quelques jours de navigation, il faut dire que le personnage même de Fernand, parfois appelé Ferdinand Magellan, reste quand même une énigme pour les historiens. On manque d'archives, de documents personnels, et on le retrace quand son nom apparaît dans les registres de navigation ou de combat, et grâce à son journal, le journal de voyage de Magellan, qui a été rédigé par un homme qui a survécu au périple, Antonio Pigafetta. Et il y a quelques chroniqueurs aussi qui vont rapporter l'exploit de cette première circumnavigation. Et sinon, bon, on a une première biographie qui a été rédigée autour de 1864, mais ça s'arrête à peu près là. Alors, il y a quand même des trous, en fait, dans l'histoire de Ferdinand Magellan, surtout avant, en fait, le grand voyage de la circumnavigation. On sait qu'il est né vers 1480 au Portugal, sous le nom de Fernão Magalhães, et qu'il appartenait à ce qu'on appelle la petite noblesse. Et on sait qu'il semble avoir navigué pour la première fois, et ça reste quand même peut-être à démontrer, mais sous le commandement du premier vice-roi de l'Inde, qui était Francisco de Almeida. Et il a contribué à une expédition qui visait à briser le monopole maritime des musulmans en Afrique et en Inde à cette époque-là. Et c'est ce qui fait qu'avec son équipage, eh bien, le jeune Magellan a voyagé en Inde, et on sait qu'il a même atteint les Moluques, qui est l'archipel indonésien qu'on surnommait l'île aux épices. On sait aussi que Magellan a navigué avec Almeida en Afrique, qu'il a combattu au Maroc et qu'il a même été blessé au Maroc en 1512, qui l'a fait boiter, en fait, par la suite. Il aurait même demandé une augmentation de pension au roi du Portugal, Manuel Ier, après ces événements. En fait, il l'aurait demandé à 2 reprises et ça lui a été refusé. On lui a même signalé qu'il aurait pu, il pouvait tout simplement lui offrir ses services ailleurs si ça l'intéressait. Et c'est un petit peu comme ça que Ferdinand Magellan va choisir d'offrir ses services du côté de l'Espagne. Parce qu'il faut dire que Magellan a des connaissances maintenant très intéressantes sur les fameuses îles aux épices. Et il va s'associer au cosmographe Ruy Faleiro et tous les deux vont essayer de convaincre le jeune Charles Ier, Charles Quint, qu'ils peuvent contourner la bulle papale de 1493 qui avait été signée en fait par Alexandre Borgia, qui donnait l'est de l'Amérique aux Portugais et l'ouest des Amériques aux Espagnols. Alors, on veut convaincre le roi qu'on peut atteindre les îles aux épices par l'ouest. Et on est motivé à l'époque par une rumeur qu'il existe un passage vers la mer du Sud. Et ça intéresse parce que présentement, ce qu'on appelle le Cap Bonne-Espérance, lui, est entre les mains des Portugais. Et c'est comme ça que Ruy Faleiro et Ferdinand Magellan deviennent des citoyens espagnols. Et c'est comme ça qu'ils changent leur nom. Et là, on va vraiment entendre parler plus de Fernando de Magallanes, donc Ferdinand de Magellan ou Fernand de Magellan. On va voir les deux, en fait, dans les archives. Et le projet intéresse le roi d'Espagne parce que malgré les récentes découvertes dans les Amériques, qui sont quand même assez importantes, les épices valent plus que l'or à cette époque. C'est ce qui est le plus populaire, en fait, depuis le Moyen-Âge pour rehausser le goût des potages, du poisson qu'on mange en grande quantité, surtout si on s'intéresse au calendrier religieux qui interdit souvent, très régulièrement, en fait, la consommation de viande. On aime beaucoup le clou de girofle, la muscade, la cannelle. On sait d'ailleurs que pour le clou de girofle, un arbre dans les îles aux épices en Indonésie produisait surtout au Moyen-Âge à peu près 7 livres de clous par année. Alors, les commerçants exigeaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour les échanges. Alors, si on pouvait mettre la main sur les îles aux épices et pouvoir s'approprier certains de ces arbres à clous, ce serait vraiment intéressant. Alors, Le projet est approuvé le 22 mars 1518 par un organisme qui est en charge des rapports commerciaux de l'Espagne avec les Indes. Et on va donc constituer une flotte de 5 navires, des caracs, qui sont plus petits que d'autres navires d'expédition à l'époque, mais qui sont conçus pour mieux résister aux conditions difficiles de l'Atlantique. Les coques sont arrondies, ils sont armés de canons et remplis de vivres pour au moins 2 ans. On dit bien 2 ans. Et le nom de ces bateaux, le Trinidad, sur lequel se trouvera Magellan, le San Antonio, la Concepción, le Victoria et le Santiago. On a au total un équipage de 270 hommes d'origine et de compétences très diversifiées. Il faut dire qu'à cette époque, malgré les voyages de Christophe Colomb et de Vasco de Gama, les connaissances géographiques du monde restent encore assez limitées. On a peu de cartes géographiques et même si on sait et comprend très bien que la Terre est ronde, on a encore de la difficulté en fait à évaluer les distances. On se base encore beaucoup sur la géographie de Ptolémée, qui sont des livres très anciens de l'Antiquité. On va essayer, qui a aussi été utilisé beaucoup par Christophe Colomb, et qui a d'ailleurs été traduit en latin pour la première fois en 1400. Quand on parle de la géographie de Ptolémée, on remonte en fait à un homme qui a vécu au 1er siècle, fin, début 2e siècle de notre ère. Donc, ça remonte à très, très, très longtemps. Et c'est sûr qu'il ne peut pas être parfait dans ses évaluations à l'époque. Et ça fait en sorte que, il ignorait l'existence du Pacifique, entre autres. Mais ça reste une des bases géographiques que les marins vont utiliser néanmoins à l'époque. En ce qui concerne l'expédition donc de Magellan, ils vont partir le 20 septembre 1519 et on sait qu'ils atteignent le Brésil le 13 décembre. Et ils vont affronter des tempêtes violentes dans l'Atlantique. Donc, quand je vous parlais au départ des sources qu'on a qui nous parlent des voyages de Magellan, c'est ce qui marque probablement le plus l'imaginaire, les tempêtes, les conditions en mer, comment les hommes vont devoir passer à travers des épreuves assez surréalistes, il faut le dire. Et donc, ils affrontent ces tempêtes dans l'Atlantique. On sait qu'ils vont rapporter l'observation de ce qu'on appelle les feux de Saint-Elme. Ils vont penser en fait que c'est une intervention divine et qu'ils sont sur le point de mourir. Mais plus ils descendent et cherchent en fait le fameux détroit qui pourrait leur permettre en fait là, de passer vers l'ouest, c'est introuvable. Et là, ils longent la côte du continent sud-américain pendant des mois et ils finissent par atteindre l'Argentine vers la fin mars 1520. Et là, ils sont dans des conditions hivernales, doivent s'arrêter, la nourriture est rationnée. Et là, il faut comprendre que les hommes sont déprimés et enragés. Et c'est ce qui mène à un événement quand même assez particulier. C'est ce qu'on appelle la mutinerie de Pâques ou de San Julián. Il y a des capitaines, en fait, sur les navires qui veulent prendre le commandement et eux veulent tout simplement retourner en Espagne, ne veulent plus rien savoir de cette expédition qui s'annonce comme étant catastrophique à leurs yeux. Et là, il va falloir que Magellan assume finalement son commandement et de ce qu'on en sait, il va se fâcher, il va organiser une résistance, il va même faire exécuter un des capitaines qui est derrière la possibilité d'une mutinerie. Et il va laisser l'autre capitaine sur une plage alors que les navires vont quitter et eux vont redescendre vers la fameuse Patagonie. Et là, ils vont apercevoir des ossements de baleines, ce qui est bon signe, parce que ça veut dire que la mer ne doit pas être très très loin. Et c'est le 21 octobre 1520 qu'ils aperçoivent un détroit. Un détroit qu'on va surnommer en fait le détroit des 11 000 vierges. L'eau est salée, c'est long, c'est sinueux, c'est plein de récifs et de montagnes. Le San Antonio déserte l'expédition, donc retourne, ne veut pas continuer plus loin. Les autres navires continuent, ils font 38 jours de navigation dans cette espèce de détroit et ils vont atteindre enfin l'océan. Alors là, de ce qu'on en sait, Ferdinand Magellan va s'effondrer en pleurs, il sait, comprend qu'il vient de changer l'histoire. Ce détroit qui mène vers le Pacifique n'est pas un mythe. Ils l'ont trouvé, ils ont réussi à traverser et ça va changer en fait l'histoire de la navigation, l'histoire du commerce. Ils sont tout à fait conscients de ça parce qu'ils viennent donc effectivement de trouver la route commerciale la plus importante entre les deux grands océans du monde. En fait, c'est vrai jusqu'au creusement du canal de Panama. Et donc, le 28 novembre, on sait que le temps est doux, calme et c'est un peu la raison pour laquelle Magellan va nommer cet océan le Pacifique. Le Pacifique qui est beaucoup plus vaste que ce qu'il croyait à l'époque. Et avec le temps que ça prend, traverser, atteindre ce nouvel océan, il y a un manque de nourriture à bord. Et les hommes, ça a marqué quand même l'imaginaire aussi quand on a commencé à s'intéresser au voyage de l'expédition de Magellan, parce qu'on sait que les hommes ont été réduits à manger des biscuits qui étaient moisis, imbibés d'urine de rat. Ils ont même fait bouillir du cuir qu'il ramassait un peu partout sur les navires pour se faire de la soupe dans l'espoir d'avoir un petit quelque chose au-delà de l'eau à manger. Et ils arrivent enfin en mars pour un premier ravitaillement dans les îles des Mariannes. Ils arrivent dans des îles chaudes, l'eau est fraîche, les fruits sont frais, les gens sont accueillants. Et ça, ben, ça va vraiment changer un petit peu la donne et changer le moral aussi des hommes. En fait, c'est ce qu'on va appeler plus tard là, les Philippines. Ils y sont donc autour du mois de mars 1521 et on sait que Magellan aurait planté des croix là, pour témoigner de la domination espagnole. Bon, ça reste à savoir où est-ce qu'il les a plantés et tout ça. C'est encore... ça fait partie des flous qu'on a par rapport à l'expédition. Et on sait qu'ils cherchent... Bon, c'est toujours le mandat que ces hommes-là ont à l'époque. On leur fournit des navires, mais ils ont des missions de conversion, en fait, des populations qu'ils rencontrent. Et Magellan, donc, va essayer, à sa façon, là, de convertir les chefs des tribus. Ça va fonctionner un petit peu, bon, sur certaines îles. On parle, entre autres, de Cebu, mais pff, quand il arrive sur l'île de Mactan, ben là, le chef qu'on appelle Lapu-Lapu, des fois, vous allez entendre Lapu-Lapu, va refuser là, la soumission, et là, ben, ça va mener à un conflit. Donc, c'est une bataille où Magellan et ses hommes sont en infériorité numérique d'ailleurs, mais ils ont cette espèce de perception que parce qu'ils ont des armes et des armures, ils vont l'emporter. Mais les guerriers, en fait, de cette île-là, ben, ont des flèches empoisonnées et c'est comme ça que Magellan est mortellement atteint le 27 avril 1521. Donc, Magellan qui ne vit pas la circumnavigation complète parce qu'il meurt avant la fin du voyage d'une flèche empoisonnée. Et on sait que le commandement va revenir à partir de ce moment-là au capitaine basque Juan Sebastián Elcano, qui va donc prendre le commandement des deux derniers navires, en fait, qui restent de ce grand voyage, la Concepción et le Victoria. Et ils vont donc atteindre, eux, les îles des Moluques, vont charger les navires d'épices. Et la Concepción, elle va tenter un retour sur ses pas, et il va être arrêté par les Portugais. Alors, il ne reste qu'un navire, en fait, qui va pouvoir poursuivre le voyage, et c'est le Victoria. Le Victoria va poursuivre sa route occidentale. Il reste, de ce qu'on estime, du côté des historiens, à peu près 20 000 km à faire. Les conditions sont terriblement difficiles. Encore une fois, il y a, à un moment donné, un manque de vivres. On sait que beaucoup d'hommes vont souffrir du scorbut, mourir du scorbut, et le bateau arrive enfin à Séville le 4 septembre 1522. Il ne reste que 18 hommes vivants sur un équipage qui, à l'origine, était quand même de plus de 270 hommes. Et ce sont ces 18 hommes qui réussissent la première circumnavigation de l'histoire. Magellan est donc mort avant, n'a pas réussi techniquement cette première circumnavigation, mais pourtant, parce que c'est lui, en fait, qui était le commandant de la flotte de départ, c'est lui quand même qui va tenir bon jusqu'à ce qu'il puisse trouver le fameux détroit qui va lui permettre d'atteindre le Pacifique, eh bien, c'est son nom qui est associé à cet exploit, plutôt que celui d'Elcano. Donc, encore aujourd'hui, dans les livres d'histoire, on va parler de la première circumnavigation de Ferdinand Magellan, mais qui techniquement ne l'a jamais complété. Alors, si jamais vous voulez un peu plus d'informations sur cette histoire, je vous suggère comme lecture Par-delà le bord du monde, l'extraordinaire et terrifiant périple de Magellan. C'est écrit par Laurence Bergreen et ça a été paru en fait chez Grasset. Et un autre en anglais, je vais vous avouer que pour Magellan, la documentation est beaucoup plus anglophone que francophone. Probablement un des livres les plus importants en fait, qui a été écrit là, dans les dernières années sur le sujet. Et ça s'appelle « The First Circumnavigators, Unsung Heroes of the Age of Discovery ». Ça a été écrit par Harry Kelsey et c'est paru quand même chez les Presses universitaires de Yale. Si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire, en archéologie, sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a toujours mes deux comptes Facebook, Evelyne Ferron, historienne, où je partage plus qu'est-ce qui m'intéresse, découvertes, lectures, etc., et mon compte d'actualité, qui est Historiophile. Mais je fais aussi des actualités sur mon compte personnel Blue Sky, où c'est plus facile, en fait, d'avoir un fil de presse si cela vous intéresse. Et si vous appréciez ces petits cours d'histoire, eh bien, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les plateformes et à partager les épisodes afin que d'autres personnes les découvre. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours.